radio de la paix.
Aïe tout le plus, Taï, 95.3 MHz.
De la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Didier Blé.
Excellent début de soirée à tous. Merci de nous retrouver. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la journée internationale de destruction des armes, la Comnat ALPC a procédé ce lundi 10 juillet 2023 à l'école de police d'Abidjan à une opération de destruction d'armes. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, sera avec nous dans cette édition. Élections municipales et régionales, le dépôt des candidatures se referme le 19 juillet. Moyens déployés, affluence, environnement autour de l'institution. Francis Cassi a passé du temps au siège de la CEI ce lundi. Son compte rendu dans ce journal. L'UEMOA a décidé de la levée de la suspension du Mali et de ses organes et institutions à l'issue donc de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Comment les autorités maliennes ont accueilli cette nouvelle? Bruno Segbeji, directeur de publication du quotidien Mali Horizon, sera dans cette édition. Et puis en fin de journal, vous suivrez un dossier d'actualité relatif aux difficultés d'approvisionnement en volaille à Divo, dossier proposé par Abel César Cassin. Merci de nous retrouver. À l'occasion de la Journée internationale de destruction des armes, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre, Comnat ALPC, a procédé ce lundi 10 juillet 2023 à l'école de police d'Abidjan à une opération de destruction d'armes. Cette cérémonie a été en effet l'occasion pour la Comnat ALPC de montrer aux populations et aux partenaires la destination des armes collectées, saisies et ou obsolètes, en vue d'empêcher leur détournement au profit de la circulation illicite. Une cérémonie présidée par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est au micro de Matatouri.
La Côte d'Ivoire veut œuvrer dans le sens de favoriser un monde plus sûr et un monde plus résilient. C'est pourquoi elle entend prendre toute sa place dans ce combat et bien évidemment en interaction avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, la Côte d'Ivoire attend agir avec détermination pour l'avènement d'un monde sans violence armée. Mais il y a plusieurs centaines, je dirais plusieurs centaines de millions qui circulent malheureusement en Afrique. Et tenez-vous bien, 85% de ces armes qui circulent en Afrique et dans le monde sont détenues par des civils, pendant que 15% seulement le sont par les forces de défense et de sécurité régulières. Et malheureusement, pour une arme qu'on détruit, il y en a 10 autres qui sont fabriquées de par leur prolifération et leur circulation illicite. Les armes légères et de petit calibre accentuent la vulnérabilité de nos États. Bien évidemment, elles représentent une menace sérieuse à la stabilité et au développement économique de nos pays.
Voilà, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La Comnat ALPC a organisé jeudi dernier à Grand Bassam un atelier de sensibilisation à l'intention des journalistes sur la problématique des armes légères et de petit calibre, le terrorisme et les nouvelles menaces. L'objectif de cet atelier était de créer un cadre de collaboration efficace entre les médias et la Comnat ALPC pour combattre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Jokoï Léon, président de la Comnat ALPC, explique comment une bonne politique de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre peut freiner le terrorisme dans la sous-région.
Qu'est-ce que les terroristes utilisent pour assouvir leurs sales besoins? Qu'est-ce qu'ils ont comme outil de travail pour commettre les actes terroristes? Ce sont les armes. Et plus précisément, les armes légères et de petit calibre. Rarement on les a vues pour ne pas dire jamais, commettent des actes terroristes avec des avions de combat, avec des aéronefs, avec des navires, avec des chars. Ce qu'ils utilisent, ce sont les armes légères de petit calibre, et plus précisément, les armes de petit calibre. Que ce soit les explosifs, que ce soit les pistolets, que ce soit les fusils d'assaut, ce sont des armes de petit calibre. Ce sont donc les armes de prédilection des terroristes. Imaginez un seul instant qu'il n'ait pas ces armes. Mais ils deviennent des individus comme vous et moi. À partir de là, qu'est-ce qu'ils représentent comme danger? Rien. C'est pour ça que nous disons une bonne lutte contre le terrorisme passe par la maîtrise, par le contrôle des armes de jet petit calibre afin qu'elles ne soient pas aux mains de ces individus. Après le reste, évidemment, il y a la sensibilisation, il y a d'autres dispositions, mais c'est dès lors que des armes sont sous contrôle, qui ne peuvent pas se les procurer, on a gagné 80% du combat.
Djoko Iléon, président de la Comnat ALPC. Parlons à présent de l'élection municipale et régionale du 2 septembre 2023. Le dépôt des candidatures se fait du 1er au 19 juillet au siège de la CEI qui a déployé les grands moyens, aussi bien humains que matériels pour sa réussite. Francis Cassi y a passé la demi-journée ce lundi, son compte-rendu.
Pour ces prochaines municipales et régionales, plus de 150 agents de la CEI mobilisés pour cette opération de dépôt des candidatures qui courent tous les jours, y compris samedi et dimanche, du 1er au 19 juillet inclus. Dans l'enceinte de la commission électorale indépendante, l'on voit 19 box réparties par région et commune où se font les dépôts. Ensuite, un récépissé est remis aux déposants de la liste des conseillers régionaux ou des conseillers municipaux. Nous a-t-on dit, tout en nous expliquant que les deux bâches que nous voyons et situées avant les box en question sont là pour renseigner tous ceux qui viennent à la CEI pour des informations avant leur dépôt de candidature. Et à ce niveau, un ex-footballeur des années 80 d'un grand club ivoirien, sous l'une de ses bâches, a soutenu être là pour des renseignements en lien avec le futur dépôt de candidature d'un de ses proches. Cependant, la CEI n'a pas souhaité communiquer sur comment se porte l'opération 10 jours après son démarrage, à savoir approximativement combien de dépôts ont déjà été faits pour ces élections et aussi s'il y a engouement ou pas dans ce sens. Précisons que c'est sous une pluie battante que s'est fait dans la matinée de ce lundi 10 juillet notre constat à la CEI de l'opération des dépôts des candidatures pour les municipales et régionales du 2 septembre 2023.
Edson Institute est un institut de formation professionnelle continue dans le renforcement de capacités techniques et opérationnelles des cadres et dirigeants dans les administrations publiques et privées. Et cet institut vient d'organiser sa première université de l'éthique et de la gouvernance des services publics ce lundi, le compte-rendu de Matatouri.
Ils sont au total 16 fonctionnaires et agents de l'État qui ont été certifiés après avoir reçu une formation de 4 mois dans plusieurs domaines comme l'éthique, le professionnalisme, la transparence, la responsabilité. La formation a été initiée par Edson Institute, première université de l'éthique, de la gouvernance et services publics. Jean-Calvin Etienne en est le directeur exécutif.
Première université de l'éthique et la gouvernance des services publics se positionne alors comme une force de changement en formant les professionnels compétents et conscients de leurs responsabilités.
Tout ceci sous la houlette d'un comité scientifique présidé par le docteur Bailly Soumeila.
En suivant ces curriculaires de modules de cours composés de 9 unités d'enseignement à valider par des tests et examens sur l'éthique et la gouvernance. Pendant un quantum horaire de 120 heures, et cela sur 4 mois.
Un cours magistral a meublé cette cérémonie, celui de Kadio Niamia, directeur adjoint de cabinet représentant le ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui a fait l'état des lieux de la corruption en Côte d'Ivoire.
En 2019, fait perdre à la Côte d'Ivoire un peu plus de 1371 milliards de francs CFA, soit 4% du PIB ivoirien, soit plus que le budget de l'éducation nationale, évalué à 1011 milliards, et 64% du service de la dette, évalué à 2132 milliards, et 4 fois le montant des dons estimés à 300 millions.
Edson Institute existe en Côte d'Ivoire depuis 2017 et sa vocation est d'offrir aux professionnels et aux entreprises des solutions capables d'accélérer leur performance dans les marchés émergents.
À présent, parlons de gestion de finances publiques. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a présenté récemment à l'Assemblée nationale le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel de la tranche 2024-2026. Ce document prévoit une prévision de croissance du PIB de 7,1% en moyenne annuelle sur cette période et une inflation moyenne de 2,4% sur la période, en dessous de la norme communautaire de 3% maximum. À quoi sert le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et comment le pays pourrait-il réaliser cette prévision de croissance? Écoutons à ce propos les éclairages du docteur Cramaux-Germain, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC.
Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un document qui encadre un peu la préparation du budget annuel pour chaque année. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, il faut élaborer ce document qui fait un peu des prévisions au niveau des grands agrégats macroéconomiques.
Ce document s'appuie sur une prévision de croissance du produit intérieur brut estimé à 7,1%. Est-ce que c'est un taux de croissance ambitieux ou qui est réalisable?
On peut dire que c'est un taux de croissance ambitieux, mais quand on prend en compte les performances du pays avant l'avènement de la COVID, on peut dire que c'est un taux réalisable. C'est que tous les voyants seront verts d'ici 2026 parce que l'inflation qui sera autour de 2,4% en dessous de la norme communautaire de 3%, le déficit budgétaire aussi qui sera ramené à 3% et aussi on voit une augmentation de la pression fiscale. Donc on peut dire qu'avec ce document, on sent que tous les voyants sont ouverts, mais c'est un document qui fait sur la base d'hypothèses. On prend l'activité économique, on essaie de voir comment les différents agrégats ont évolué et on fait l'hypothèse que ces agrégats continuent d'évoluer tels qu'ils ont évolué récemment. Donc voici pourquoi ce document retrace d'abord les performances économiques du pays pour ces dernières années avant de faire une projection dans le futur. Et sur cette base, c'est dit, bon, si on garde les mêmes évolutions dans les différents secteurs d'activité, alors on peut avoir un taux de croissance de 7,1% et à partir de là, on va essayer de faire tout ce qui est projection.
Docteur Germain Cramaux, enseignant en économie, chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Il était en ligne avec Jean-Claude Comé, parlant de culture et sport en symbiose à Diaké. La 7e édition du LF Festival se tiendra du 26 au 29 juillet prochain. Le lancement de ce grand rendez-vous culturel annuel a eu lieu le vendredi 7 juillet dernier à la mairie d'Adiaké. Le LF Festival, ce sont des compétitions sportives, artistiques et culinaires. C'est aussi une véritable attraction économique pour la localité. Gislain Koulibaly.
Le LF Festival s'annonce en fanfare. Initialement tenu autour d'une course de pirogue, d'autres activités ludiques ont été intégrées au fil des années. Plusieurs festivaliers sont attendus, de quoi booster l'économie de la ville, nous fait savoir ici le maire, Iensie Yakuba, promoteur.
Elle est adrénée du monde. Finalement, c'est l'économie locale qui est boostée pendant la période. Là, on a commencé par un jour, là, on fait trois, quatre jours maintenant. Simplement parce qu'on veut avoir du monde là d'ici. C'est une zone hospitalière. On aime recevoir les gens, on sait les recevoir. On veut les garder le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est du gagnant-gagnant. Ils y viennent, ils prennent du plaisir, mais en même temps, l'économie locale gagne. Nos femmes vendent plus de poissons, les vendeurs de tomates vendent plus. Les marques qui font les maquis gagnent plus d'argent. Bon, pendant cette période-là, la ville est en effervescence et on y gagne.
2023, année de la jeunesse, la promotion des valeurs se fera à travers cette grande rencontre culturelle. Ibrahim Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire.
La culture rassemble, la culture fait la promotion de valeurs, que sont la solidarité et la complémentarité, tant de valeurs qui peuvent permettre à notre pays de se développer. Il y a plus de 60 ethnies aujourd'hui, je pense que c'est une richesse pour nous, il faut puiser là-dedans. Et le Conseil est solidaire de cette initiative-là, qui est bientôt à sa 7e édition et qui mobilise tous les acteurs, mais en plus de cela, donc permet aux jeunes de pouvoir gagner, donc fructifier leurs revenus.
Cette année, l'Est de la Côte d'Ivoire est la région invitée.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de la levée de la suspension du Mali, de ses organes et institutions. C'est ce qui ressort du communiqué final de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution qui s'est tenue à Bissau le 8 juillet 2023. Comment les autorités maliennes ont accueilli cette nouvelle? Les explications de Bruno Djito Sebouji. Il est le directeur de publication du quotidien Mali Horizon. Il a été joint par Ouattara Désiré Gapienan.
Cette décision a été accueillie avec un certain soulagement. Vous savez, ici au Mali, les voix officielles ont toujours considéré cette décision comme injuste, cette suspension comme injuste. et inhumaine, surtout pour un pays enclavé. Donc ces sanctions-là n'étaient pas du tout appréciées. Tous les efforts qui ont été faits méritaient quand même que cette suspension soit levée depuis. Donc si ça a tardé, l'impression générale, c'est mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un soulagement qui domine la vox populi et puis les autorités.
Il est également dit que les chefs d'État et de gouvernement ont pris connaissance de l'état d'avancement du processus d'élaboration de la vision prospective de l'UEMOA à l'horizon 2040 en vue de doter l'Union d'un outil d'anticipation dans le long terme permettant d'asseoir les bases de ses choix et priorités stratégiques. Quelle interprétation ?
En tant que journaliste, comme quoi, tant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, si on n'a pas un mécanisme anticipatif pour voir, par exemple, les mauvaises élections, pour éviter les troisièmes mandats, les quatrièmes mandats, etc., les mauvaises gouvernances, cette vision-là serait bien si on y intégrait des mécanismes évitant des crises post-électorales, évitant les cas de mauvaise gouvernance, de perpétuation de mandats des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, etc. Donc il faut que l'UEMOA, la CEDEAO prennent des mesures anticipatives pour dissuader à ce que la gouvernance dérive vers ces soulèvements qui génèrent les coups de force.
Bruno Djito Segbouji, directeur de publication du quotidien Mali Horizon, joint par Gapéan Ouattara. Dans notre dossier d'actualité, nous nous rendons à Divo. Depuis plusieurs semaines, les vendeurs de poulets du grand marché de Divo ont du mal à s'approvisionner en volaille. Double conséquence, la flambée des prix et une menace réelle sur les activités. Et notre correspondant régional, Abel César Cassin, s'est intéressé à ce sujet.
Depuis une dizaine d'années, Djedje Tanguy est vendeur de poulet au grand marché de Divo et nous décrit la contingence actuelle.
Maintenant, comme les poulets ont disparu, donc pour avoir, mais c'est difficile. Mon grand frère, comme ça, lui prend 50 par jour. Sinon, on vend 300, 200, mais maintenant, ça a diminué. C'est le boulot, donc on ne peut pas rester à la maison. Donc, nous sommes obligés de venir au marché chaque jour.
Sembe Awa a renoncé à la vente de poulets de chair. Elle nous en donne les raisons.
On est africain, pentade, on se débrouille pour le moment. Bon, vraiment, comprendre. D'autres par la fin de. L'aliment qui est devenu cher, dont les éleveurs, il y a beaucoup qui ont arrêté de faire poulet. Donc le peu qu'on fait là, c'est plus suffisant pour la population de Divo. Pour le moment, il n'y a rien d'abord. Quand on vient les matins, ça sort en cause. On commande à Daloa, va voir pour que ça vienne. Pental, c'est souvent ça qui t'a boqué.
Sabadogo Alassane affirme également que ce n'est plus facile de s'approvisionner en poulet traditionnel.
Avant, Burkina qui nous donne un peu, mais actuellement, bon, Burkina même, ce que nous faisons ici à 2500, Burkina c'est 3500 francs.
Les rares vendeurs qui ont encore des poulets les revendent cher. Le cas du jeune Sembe Aboubakar qui revend des poulets d'un mois.
Ce poulet-là, quel est son poids?
Son poids, 1,8 kg, 1,10 kg. On peut le vendre à 2200, 2300. C'est devenu plus grave. Vous en prenez à 1800, maintenant on prend à 2200. Le même poulet, mais c'était gros que ça.
Oudraigo Djibril emploie 7 jeunes gens dans l'abattage et le plumage des poulets. Son témoignage.
Je vois aujourd'hui qu'il y a moins de poulets, il y a moins de personnes qui sont en train de plumer les poulets.
Effectivement, ça fait aujourd'hui, je crois bien si je ne me trompe pas, le début du mois de jeûne, Ramadan jusqu'au début, il y a des ruptures assez fréquentes même, il n'y en a pas. Bon, pour celui qui a les moyens, il se déplace, il va jusqu'à Yible Kourou pour s'approvisionner.
Dans le périmètre de la ville, les fermes avicoles sont devenues rares. C'est à Groubiasouné, à une douzaine de kilomètres de Divo, que nous avons eu la bonne fortune de rencontrer Dago Odje Emile, député. C'est un homme aujourd'hui désabusé.
Présentement, j'ai plus de 100 têtes dans mon poulailler. Et c'est les coquelets qui ont plus de 6 mois. J'ai été l'autre jour à Divo pour approcher deux ou trois revendeurs, ben ils ont carrément cassé le prix qui ne m'arrange pas. Les denrées alimentaires sont extrêmement chères.
Et voilà, si le prix des aliments pour volailles continue à grimper, il est à parier que dans quelques années, il n'y aura plus de poulets à vendre dans les marchés. De Divo Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Merci à vous Abel César Cassin. C'est bien sûr ce dossier d'actualité que nous refermons ce 18h. Le rappel des titres. Célébration de la Journée internationale de destruction des armes. La Comnat LPC a procédé ce lundi 10 juillet 2023 à l'école de police d'Abidjan à une opération de destruction d'armes. Élections municipales et régionales, le dépôt des candidatures se referme le 19 juillet. Moyens déployés, affluence, environnement autour de l'institution. Francis Cassi a passé du temps, vous avez suivi son compte rendu. L'UEMOA a décidé de la levée de la suspension du Mali, de ses organes et institutions à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous avez entendu notre confrère Bruno Segbouji parlant justement de la réaction des autorités maliennes. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Jean-Claude Comet pour le magazine Economia.